Cette semaine, c'est la semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et par conséquent, je reçois Jacques Fredge, qui est le directeur du mémorial de la Shoah. Ensemble, on va parler de génocide. Alors, je vous accorde que c'est pas le sujet le plus rigolo de la Terre, et en même temps, il faut savoir aussi traiter des sujets qui sont importants, essentiels. Parce qu'en réalité, même si on dit qu'on a compris ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale, on voit très bien que ces situations pourraient se reproduire. Elles se sont déjà reproduites entre-temps, en particulier avec les Tutsis, et on peut envisager que ça se reproduise à nouveau, et on voit très bien ce qui se passe avec les Ouïghours en ce moment même, même si ça n'a pas été défini comme un génocide à proprement parler. Donc cette conversation est importante, essentielle, vraiment. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Jacques.
Bonjour.
On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est pas très rigolo, mais en même temps extrêmement important, qui est le génocide. Et pour commencer, je crois que sans doute la première chose à faire et qui me semble essentielle, c'est de redéfinir ce que c'est qu'un génocide.
Oui, alors c'est un mot qui a été inventé au lendemain de la guerre, qui date de 1948. C'est un mot qui a été, dont le concept a été inventé par un juriste américain qui s'appelle Raphaël Lemkin et qui, finalement, dès 1943, il pensait à la fois à ce qui est en train de se passer pendant la Seconde Guerre mondiale, mais en même temps, il pensait au génocide des Arméniens et il pensait que sur les crimes, que ce soit celui des Arméniens ou ce qui était en train de les crimes qui étaient en train d'être perpétrés à l'encontre des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, il fallait inventer un mot nouveau pour qualifier ces crimes particuliers qui avaient été commis en 1915 et qui étaient en train d'être commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous savez que ce mot n'a pas été utilisé dans les grands procès de Nuremberg, qui était le premier essai de justice internationale où on a jugé les bourreaux, les criminels nazis, mais la définition est arrivée en 1948, donc c'est un terme qui vient à la fois du grec et du latin, hein, qui signifie tuer et race, race et tuer, on va dire. Et l'idée, si vous voulez, c'est de, pour faire simple, parce qu'il faut que vous sachiez que c'est un terme juridique, le mot génocide, mais c'est aussi un sujet d'histoire. Et donc, pour faire simple, un génocide, c'est un État qui va assassiner un groupe de manière planifiée, intentionnelle, organisée, ce groupe... sans raison, en fait. C'est-à-dire que il s'agit pas d'aller récupérer une terre ou il s'agit pas d'aller... on veut assassiner des gens pour ce qu'ils sont, en fait. Voilà. Peu importe ce qu'ils pensent, on ne les assassine pas pour ce qu'ils pensent, pour ce qu'ils disent, mais parce qu'ils sont quelque chose. Ils sont nés quelque chose ou ce sont les porteurs de quelque chose. Et donc... une identité, une religion, une ethnie, voilà. C'est à peu près, ce sont des notions fondamentales qui vont faire la différence. Ça ne veut pas dire que le crime de génocide est rattaché au crime contre l'humanité. Donc il y a d'autres crimes qui sont bien évidemment tout aussi terribles. C'est pas parce qu'un crime n'est pas un génocide que c'est pas un crime de masse. Que c'est pas un crime terrible, hein. Et c'est très important parce que le mot génocide répond à certaines situations et pas à toutes les situations. C'est-à-dire que on vit une période où il y a une tentative volontaire ou involontaire de vouloir déformer le sens des mots et de vouloir faire de toutes les situations un génocide. Tout n'est pas un génocide, mais ça ne veut pas dire que parce que ce n'est pas un génocide, ça ne veut pas dire que pour autant un crime qui est en train de se perpétrer ne relève pas d'une gravité exceptionnelle. Hein, donc voilà, c'est simplement que ça qualifie à la fois la marque du crime, en fait. Ça qualifie la marque du crime, le génocide.
Et on a l'impression, quand on vous écoute, que ça pourrait pas se reproduire. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'effectivement, il y a eu la Seconde Guerre mondiale et l'extermination des Juifs, et on va évidemment y revenir, mais qu'aujourd'hui, en 2021, on a appris et que ça peut pas se reproduire. Et pourtant, la réalité, c'est que ça s'est déjà reproduit entre-temps. Peut-être qu'on peut revenir sur ces exemples-là, parce que c'est important de les rappeler. Et surtout, ça peut revenir... à n'importe quel moment. J'aimerais comprendre, d'abord, qu'on reprenne des exemples où ça s'est reproduit depuis la Seconde Guerre mondiale, mais aussi la logique derrière le génocide. Comment ça se met en place et comment on en arrive à une population qui en détruit une autre, ce qui est complètement fou, en fait, quand on y pense.
Oui, alors en fait, là où vous avez entièrement raison, c'est que... globalement, nous, le mémorial de la Shoah, on travaille sur les génocides qui font l'unanimité sur le plan historique, parce qu'il faut savoir qu'il y a des discussions il y a des débats encore aujourd'hui sur des situations. On a parlé des Yézidis, on a parlé des Ouïghours, on a parlé de l'ex-Yougoslavie, on a parlé de l'Holodomor en Ukraine. Aujourd'hui, il y a unanimité sur le massacre, le génocide des Hereros et des Nama en Namibie, à la fin du 19e siècle, celui des Arméniens en 1915, celui des Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale, le génocide des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale également, et puis, après la guerre, il y a, en tous les cas, un génocide qui fait l'unanimité dans toutes les situations qui se sont déroulées après la guerre, c'est celui des Tutsis au Rwanda. Et là où vous avez mille fois raison, c'est que pendant des années, au lendemain de la guerre, on a répété ces formules que les rescapés de la Shoah criaient avec conviction, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Et c'est vrai que tout ce qui s'est passé depuis, et en particulier en 1994, le génocide des Tutsis au Rwanda, montre que finalement, des situations se reproduisent et qu'il y a un côté un peu naïf à imaginer que l'homme apprendra de manière définitive sa leçon, ses leçons historiques, et qu'il ne reproduira plus des crimes qui ont mené à tant de morts dans l'histoire pour des raisons totalement absurdes et où l'intolérance est au cœur du crime, hein, on va dire très clairement les choses, parce que ce qui va être commun à toutes ces situations, c'est qu'il y a cette intolérance qui est à la base de tout et qui va amener à la mise à mort d'une population par une autre population. Et là où je vous rejoins, c'est que même nous, dans notre terminologie, nous avons changé notre façon de parler. Hein. Moi, je ne dis plus qu'il s'agit d'éradiquer de manière définitive, sur le plan de l'éducation, le risque des génocides. Je crois que malheureusement, la nature humaine étant ce qu'elle est, je pense que notre rôle, c'est de limiter les conséquences de la haine, du racisme et de l'antisémitisme en général. Et j'utilise le mot « limiter » à dessein parce qu'il y a eu le génocide des Tutsis au Rwanda. Et parce qu'il y aura, il y a peut-être au moment où on parle, une situation génocidaire. Et malheureusement, c'est pas désespéré de l'être humain. C'est simplement que je pense que on a été trop ambitieux à vouloir penser qu'on allait mettre fin au racisme, à l'antisémitisme, au génocide, à l'intolérance, à l'exclusion, à la discrimination. C'est nous qui avons été naïfs de penser qu'on y mettrait fin. Et finalement, aujourd'hui, il faut faire les choses avec sérieux, honnêteté et lucidité. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de désespérer, je le dis encore, parce que, vous savez, On n'arrête pas de répéter depuis des siècles et des siècles qu'il faut pas voler, qu'il faut pas tuer, qu'il faut pas faire plein de choses qui sont déjà inscrites dans les 10 commandements qui sont à l'origine des sociétés monothéistes. Mais il n'empêche que on n'arrête pas d'arrêter des gens parce qu'ils ont tué leur prochain. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, dans notre naïveté, il y a eu cette incompréhension et cette ambition démesurée et parfois coupée de la réalité qui consistait à dire qu'on allait avoir un être nouveau, un homme nouveau, après la Seconde Guerre mondiale, comme si Auschwitz allait servir de vaccin définitif. Alors peut-être que c'est ce qui a permis à nos sociétés, aux rescapés, aux résistants de se reconstruire. Mais aujourd'hui, 75 ans après, il faut tenir un autre discours, non pas défaitiste, parce qu'il faut qu'on soit combatif, mais en tenant compte de la réalité. Voilà. Parce que sinon, si on tient un discours qui est décalé, en matière d'éducation, on va être décalé. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Et alors, comment ça se met en place, un génocide ? Comment on en arrive à une situation où une population décide d'éradiquer une autre ?
En fait, si vous voulez, très clairement, à l'origine des génocides, il y a un groupe qui pense de manière claire qu'un autre groupe est inférieur à un autre, et que ce groupe menace l'identité globale d'un pays ou d'un groupe plus large. Et il y a de la jalousie, il y a du stéréotype, il y a de l'exclusion, il y a de l'intolérance. On n'aime pas l'autre pour ce qu'il est ou pour l'image qu'on lui attribue, qu'on essaye d'imposer de lui. Il y a l'idée qu'on est supérieur à lui. Il y a l'idée dans l'antisémitisme. L'antisémitisme est un racisme un peu particulier parce que le racisme, si vous voulez, c'est l'idée de dire « je suis supérieur à vous ». Voilà, je suis supérieur à... aux noirs, aux asiatiques, parce que je suis un blanc ou parce que je suis je ne sais pas quoi et je suis un noir qui a on va dire une histoire parce que le racisme il s'exerce pas uniquement des blancs contre les noirs au Rwanda ça s'est pas fait comme ça mais il y a l'idée que je suis supérieur à vous et que vous me menacez quelque part. Hein. Dans l'antisémitisme, c'est un peu particulier parce qu'il y a une notion un peu spécifique qui est que c'est pas tant que quand on accuse un juif, on n'a pas le problème d'être supérieur à lui. Le problème, c'est qu'on a l'impression que le juif vous vole quelque chose. Il vous vole de l'oxygène. Il vous vole de l'argent, il vous vole du pouvoir. C'est-à-dire, quand on dit les Juifs sont riches, ça veut dire globalement, ils sont riches et ce qu'ils ont, je ne l'ai pas moi. Le pouvoir, ils en ont et je ne l'ai pas moi. Ils me l'ont volé, ils me l'ont pris. Il y a quelque chose qui relève du kidnapping, en fait, et de la menace. Globalement, tout le pouvoir que les Juifs ont, c'est au détriment des autres. Il faut faire en sorte de récupérer tout ce pouvoir qu'ils ont pris avec cette vision raciale qui va, que ce soit dans le génocide des Tutsis ou le génocide des Juifs, finalement, ce groupe qu'on voit différent et on va, à force de propagande, convaincre la population que le groupe que je montre du doigt est différent pour telle raison et telle raison et telle raison. Donc ça s'appelle la propagande et la propagande se fait avec des gros traits, avec des accusations de trahison, de menaces également, c'est-à-dire que les nazis étaient convaincus, par exemple, que les juifs étaient une menace pour la race aryenne. Les nazis, vous le savez, étaient obsédés par la pureté du sang aryen, et ils étaient convaincus que les juifs étaient un virus, une menace biologique. Et donc là, on rentre dans la logique du « ou eux, ou moi ». C'est-à-dire que leur existence même menace mon existence. Et donc, c'est ce qui va légitimer la mise à mort. Dans le cas des Tutsis, on va retrouver des mécanismes identiques. Ce groupe, les Tutsis, qu'on a identifié et qu'on va, je dirais, à force de propagande, accuser de tous les maux, on va tout d'un coup également les animaliser. Hein, on va les traiter de cafards. Et toute cette terminologie qui va être utilisée dans la propagande, elle va paver le chemin qui va mener à l'assassinat en masse. Parce que finalement, animaliser, c'est légitimer le fait que vous êtes une quantité négligeable. On va animaliser, voilà, et on va tuer. Et donc finalement, par cette propagande, on minimise le crime, parce que qui va nous reprocher de tuer des cafards ? Voilà. Donc, si vous voulez, il y a tout un mécanisme qui est plus ou moins, bon, qui est différent dans l'Allemagne nazie ou dans le cas du génocide des Tutsis par les Hutus, parce que les États sont pas les mêmes, mais il y a véritablement un travail de fond qui va être mené sur le plan de la législation. On va exclure sur le plan de la terminologie, parce que la législation, elle va se faire aussi avec des mots, et les mots ont un sens, ils vont préparer, en quelque sorte, ils vont permettre au bourreau de faire le crime avec plus avec moins de difficulté morale, avec plus de légèreté, oui, c'est vrai.
C'est horrible.
Dans la mesure... mais oui, mais parce que ce qui est intéressant de comprendre, c'est que un groupe qui assassine un autre groupe, ça ne se fait pas naturellement. Donc, il faut préparer les esprits. Il faut préparer les esprits. Quand on va lire, par exemple, les récits des Einsatzgruppen, vous savez, ce sont des groupes de tueries mobiles qui avançaient derrière la Wehrmacht au moment de la rupture du pacte germano-soviétique. Ils ont envahi l'Ukraine et il y avait derrière l'armée allemande des groupes de tueries mobiles qui avaient pour mission de rassembler les populations juives et communistes, parce que pour les nazis, les juifs et les communistes, tous les juifs étaient communistes et tous les communistes étaient juifs. Et donc, ils avaient pour mission de rassembler les gens et de les tuer. Eh bien, on voit que les membres de ces Einsatzgruppen sont des gens qui, souvent, se saoulaient parce que, à cette étape-là du crime, c'était des pelotons d'exécution. Donc, il y avait quand même une proximité avec entre le bourreau et la victime. Donc, ils devaient se saouler parce que pendant des jours et des jours, en septembre 41, ils ont tué plus de 30 000 juifs à Kiev. Et pour faire cela, il leur fallait véritablement passer, si vous voulez, cette question morale de cet assassinat de masse. Et ils disaient eux-mêmes que c'était difficile de faire ce qu'ils devaient faire parce qu'ils tuaient des femmes, ils tuaient des enfants, ils tuaient des bébés. Mais ils ajoutaient en général, on le lit dans les procès des Einsatzgruppen, dans les témoignages des membres des Einsatzgruppen qui ont été jugés, ils le faisaient pour la cause, en fait. Et donc, la propagande, je dis ça pour dire, si vous voulez, que la propagande, elle est fondamentale. La propagande, elle est fondamentale parce que, finalement, dans les génocides, c'est un groupe qui tue un autre groupe. Alors, dans le cas du Rwanda, c'est encore plus compliqué, parce que c'est une partie de la population qui va tuer une autre partie de la population. Mmh. Parfois dans une même famille, parfois chez des voisins, les gens que vous avez croisés, qui vont être les bourreaux. Et au Rwanda, vous savez que l'essentiel du crime a été mené à la machette. Donc là aussi, avec une proximité très forte entre le bourreau et la victime. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui, parce que finalement, après le génocide des Tutsis au Rwanda, le pays a dû se reconstruire. Et souvent, les victimes ont vu ceux qui hurlaient à mort, ils les revoient encore, parce qu'ils habitent encore là, parce que c'est un crime de voisin, le génocide des Tutsis au Rwanda. Et alors, pour en revenir à votre question, comment on en arrive à ce qu'une partie de la population tue une autre partie de la population? Mais en fait, je pense que la difficulté de l'être humain, elle est là. C'est-à-dire que l'être humain a des pulsions, l'éducation, la culture va faire la différence. Et encore, parce que des peuples cultivés comme les Allemands ont quand même perpétré ce crime de la Shoah, c'est pas suffisant. Mais on comprend en effet que je veux pas tomber dans la modélisation, mais globalement, les bourreaux sont pas des hommes ordinaires, parce que on devient pas un génocidaire comme ça. Mais néanmoins, c'est vrai que on est surpris de la capacité de l'être humain à dépasser dans certaines situations, je dirais, le statut d'être humain pour basculer dans un autre statut, de celui de bourreau, qui va l'amener à tuer, et à tuer en masse. Et c'est vrai que dans le travail que nous faisons au Mémorial, on insiste beaucoup en disant que, bien évidemment, chaque fois qu'il y a du racisme ou de l'antisémitisme, ça mène pas à un génocide. Mais dans un génocide, ça a toujours démarré par de l'antisémitisme ou du racisme, et ça a toujours démarré par des mots. Alors, c'est pour ça qu'on est très attaché au sens des mots, pour le bien et pour le mal. C'est-à-dire qu'il faut bien nommer les choses, il faut bien nommer les choses sur le plan historique, parce que sinon tout est dans tout, et donc on a du mal à comprendre les situations si tout est dans tout. Et puis deuxièmement, pour le côté mal, finalement, il n'y a pas de mots anodins. Tous les mots ont de l'importance. Vous savez, on entend souvent au café du commerce, oh, ça va, c'est une blague, c'est pour rigoler, etc. Ça. Mais ça commence toujours comme ça, en fait. Et comme on n'est pas capable, nous, les êtres humains, finalement, de trouver des limites, dans certaines situations, et on ne sait pas où les choses vont aller, c'est vrai qu'il faut se poser la question, finalement, de se dire, mais finalement, sur le terrain du racisme et de l'antisémitisme, comme on ne sait pas où on va, comme on ne sait pas où ça peut mener, comme on ne sait pas qui va se nourrir de ce qu'on est en train de dire autour de nous, eh bien, gardons-nous, en tous les cas, de plaisanter sur certains sujets, ou de laisser dire que certains jeux de mots sont possibles ou pas possibles. Le mieux, c'est sur compte tenu des conséquences, si vous voulez, de ces mots. Je pense que il faut se raisonner en se disant sur ce terrain-là, gardons-nous de déraper. Voilà.
Et moi, il y a un truc qui me choque, enfin qui m'a toujours choqué d'ailleurs, c'est que si on parle du modèle arien, le modèle arien, c'est un grand blond musclé, etc. Et Hitler, c'est un petit brun chétif. Et j'ai toujours eu du mal à comprendre comment un petit brin chétif arrive à faire croire à une population entière que le modèle, c'est un grand blond musclé. Et ça m'a toujours choqué, ça c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est, vous parliez tout à l'heure des profils qui sont un peu particuliers, qui sont ceux des bourreaux, mais il y a aussi une population qui ne dit rien, en fait, n'est pas agissante dans l'absolu, oui, mais qui est dans le silence et qui laisse faire. Et je crois que, je ne sais plus, il y a une citation comme ça qui dit ça, que, en fait, majoritairement, le mal ne se transmet pas, ou en fait ce genre de situation ne se transmet pas parce que les gens sont mauvais, mais parce qu'ils laissent faire, tout simplement.
Oui, alors c'est pour répondre à vos deux questions, c'est évident que quand on regarde le nazisme et Hitler par le petit bout de la lorgnette, on se pose cette question. Comment il a réussi? Mais si vous voulez, ça,
forcément,
ça met en valeur une chose, c'est que ça a été un personnage charismatique. Ça a été un personnage qui a été un très bon orateur, qui a galvanisé les foules et qui a su finalement jouer des peurs de l'Allemagne à ce moment-là, du désir de revanche après l'humiliation de la Première Guerre mondiale, et puis de cette grande idée que le peuple germanique avait un destin particulier. Et finalement, c'est pas tant ce qu'il était petit et brun, c'est ce qu'il disait de ce que l'Allemagne voulait entendre après cette grande humiliation de la Première Guerre mondiale, cette crise de la société allemande à la suite de l'industrialisation, etc., etc. Il y a tout un tas de facteurs que je ne vais pas évoquer là, mais si vous voulez, un mélange de thématiques anciennes et remodelées de façon nouvelle, c'est du populisme avec un rêve, c'est-à-dire que Hitler a vendu une belle histoire aux Allemands, dont il a réveillé cette grande destinée. Ce besoin d'expansion territoriale, cette mission au sein même de l'humanité, su profiter de ce terrain du racisme et de l'antisémitisme, parce que ce qui est pour prolonger votre question, c'est-à-dire que on parle avant même que la Shoah démarre, sur le plan idéologique, faut quand même rappeler le modèle nazi qui est sans doute, à mon sens, la vision raciale la plus sophistiquée, poussée à son paroxysme sur le plan du concept. Il y a vraiment l'idée d'une race avec la pureté du sang, et dont les premières victimes ont été les Allemands. Parce que si vous venez, vous êtes venu visiter l'exposition permanente du mémorial.
Oui, bien sûr.
À un moment, on s'est arrêté devant deux panneaux de l'exposition. Le premier est un panneau finalement qui est ni plus ni moins que le prolongement des théories eugénistes, qui va amener les Allemands à penser que toutes les vies ne valent pas la peine d'être vécues, qu'il y a des gens dans la société qui coûtent de l'argent aux autres et qui ne correspondent pas au modèle de la race aryenne. Donc les handicapés, les malades mentaux, les asociaux, au sens large du terme, parce qu'asociaux pour les nazis c'était un peu un fourre-tout, ils vont être amenés par exemple à stériliser des milliers de femmes allemandes parce qu'ils vont estimer que ces femmes-là ne vont pas donner naissance à des modèles de la race aryenne. Donc, ils vont stériliser des milliers de femmes, et ce sont des femmes allemandes. Après, ils vont assassiner dans les instituts d'euthanasie des milliers d'Allemands qui sont handicapés, malades mentaux, etc. Et donc, c'est un crime qui va être fait au nom de la raison d'État, par des médecins, par du personnel médical, qui, vous le savez, quand même, dans le serment d'Hippocrate, est plutôt là pour sauver des vies que pour tuer des gens et réglementer qui doit vivre et qui doit mourir. Mmh. Et finalement, ce qui donne le tournis quand on parle du nazisme, c'est cette vision du monde qui va les amener d'abord à tuer des milliers d'Allemands, et ça, on ne le dit jamais assez, avant de s'attaquer aux autres. Et pour prolonger votre question, comment les Allemands peuvent-ils accepter cela?
Ben oui.
Finalement, parce que quand il s'agit d'aller tuer les autres, on peut se dire, c'est beaucoup plus simple d'aller tuer des gens qui sont exclus, les Juifs allemands ou les Juifs des autres pays. Mais c'est pas ça. Ça va être après la deuxième page. La première page, ça va être de faire le ménage pour glorifier cette race aryenne. Et donc, si vous voulez, c'est fondamental de comprendre cela, parce qu'on n'est que 75 ans après. On est en Europe, ce sont des Européens qui vont assassiner d'autres Européens, c'est l'Allemagne, un pays qui est au cœur de l'Europe et qui jouait un rôle et qui continue de jouer un rôle fondamental aujourd'hui. Et ça pose question, c'est-à-dire comment on en est arrivé là, hein, comment on en est arrivé là. Il y a une part de... Bien sûr, on peut faire toutes les analyses possibles et imaginables, mais il y a en effet aussi cette idée du prix de la vie, cette idée de la massification du meurtre, qui était une des conséquences de la Première Guerre mondiale. C'est un des premiers conflits où on a tué à tour de bras à la fois des militaires et des civils, avec des armes qui étaient en conséquence. Et cette violence qui a eu pendant la Première Guerre mondiale, elle a aussi préparé les esprits à des meurtres de masse. Voilà. Oui, alors, si vous voulez, quand on vient comme ça, des années après, à essayer de comprendre, il y a une part d'incompréhensible, d'incompréhension, hein, on cherche, nous, à tout expliquer, à essayer de comprendre. Et c'est vrai qu'il faut absolument comprendre si on veut ne pas répéter les choses et ne pas répéter les situations historiques, ne pas répéter les mêmes crimes, il faut absolument comprendre. Ce qui est sûr, c'est que personne ne n'imaginait que les Allemands allaient être capables, en Europe, d'aller perpétrer un crime de cette nature. Et pourtant, ils l'ont fait, et ça a été progressif. En tous les cas, il y a des signaux visibles que l'on est capable de repérer et qui doivent nous servir aujourd'hui de signaux d'alerte, hein, dans nos sociétés contemporaines, démocratiques, parce que Hitler est arrivé au pouvoir par des élections et par un jeu politique, mais le coup d'État qu'il avait tenté a échoué, et il est revenu par des élections démocratiques, entre guillemets. Donc, il faut être conscient de ça, parce que on vit, nous, dans des sociétés démocratiques où on a l'impression que notre société, elle est démocratique pour toujours. Je pense que ce qui s'est passé dans notre pays depuis quelques années montre que la démocratie est fragile. Et que on l'a jamais autant réalisé ces dernières années. Et ça nous permet aussi de comprendre comment on peut basculer aussi, voilà, d'une situation à une autre. Et alors, il y a deux choses qui sont fondamentales, et vous le disiez. D'une part, il y a le groupe. Faut se méfier de l'être humain en groupe. Parce que malheureusement, l'être humain en groupe, l'être humain en meute, sans réflexion, on sait de quoi il est capable. Et puis, vous l'avez dit, dans un génocide, ce qui est fondamental, ce sont ceux qui laissent faire. Ceux qui laissent faire, il y a pas les bourreaux d'un côté et les victimes de l'autre. Il y a tous les gens qui laissent faire, qui sont des facilitateurs d'une façon ou d'une autre, qui regarde par terre ou qui regarde en l'air. Vous savez, quand il y a eu l'assassinat dans les instituts d'euthanasie des malades mentaux, il y a un évêque qui est l'évêque von Galen qui a protesté, et au moins officiellement, les nazis ont arrêté la mise à mort des malades mentaux dans les instituts d'euthanasie. Et dans une société qui avait été nazifiée, où la résistance était très compliquée parce que les nazis avaient véritablement revisité tous les coins de ce pays, et il y avait très peu de place pour la désobéissance, tellement l'Allemagne avait été nazifiée de fond en comble. C'est vrai que ne rien faire, laisser faire, aujourd'hui on le sait dans l'étude des génocides, c'est d'une manière ou d'une autre participer au crime. C'est ça aujourd'hui que l'on comprend de ces situations historiques.
Et si on prend l'exemple de l'URSS, on sait très bien que Staline a tué beaucoup de monde également pendant cette période. Est-ce que ça, c'est un génocide ? On n'en parle pas comme un génocide, on en parle comme un crime contre l'humanité. Oui. En général, pourquoi on fait cette nuance entre les deux ? Parce qu'il a tué aussi des millions et des millions de personnes, des dizaines de millions de personnes d'ailleurs.
Parce qu'en fait, il y avait toujours, il y a dans le goulag, l'idée du camp de redressement. C'est-à-dire qu'il y a une rédemption possible. Dans le génocide, il n'y en a pas. Votre existence, elle me menace. Donc, il n'y a pas d'autre choix que de vous tuer. Et lorsqu'il y a... dans certains conflits, il y a, je pense au massacre des Indiens en Amérique. C'est vrai que les Indiens qui... Alors, comprenez-moi bien, là, je ne suis pas en train de diminuer le crime qui a été fait. Je réponds à votre question. Pas,
Bien sûr, bien sûr. Voilà.
Simplement... Je le dis pour ne pas être mal compris. C'est pour répondre à la notion de génocide. Des Indiens qui vont accepter d'aller vivre dans une réserve ne seront pas massacrés. Ce qui est en jeu, c'est la terre. C'est pas les Indiens. Dans le goulag, c'est idéologique, en fait. Donc, si vous filez droit, vous serez pas inquiété. Si vous allez en camp, même si vous risquez d'y mourir dans ce camp avec de mauvais traitements, des violences, du lavage de cerveau, etc., etc., néanmoins, vous pouvez en sortir. Dans le crime de génocide, il n'y a pas d'échappatoire. Voilà. C'est la mort. C'est la mort systématique. C'est ça qui est visé, la mort systématique. Et donc, il y a un plan qui va être mis en œuvre pour atteindre le plus possible cet objectif.
Et quand on s'est vu au mémorial de la Shoah, il y a une question simple pour laquelle vous consacrez un panneau entier. Même plusieurs panneaux d'ailleurs, qui est c'est quoi un juif ? Parce qu'en fait, il y a cette haine des juifs sans vraiment être capable de définir ce que c'est qu'un juif. Parce qu'en fait, quand on parle, et vous disiez tout à l'heure, les juifs, c'est ceux qui ont de l'argent, donc c'est les banquiers, ils ont de l'information, ils sont dans les médias, etc. On se rend compte que souvent, il y a une forme de désinformation et de définition même. Ce qui est un juif, parce que a priori, jusqu'à ce que je sache, a priori, c'est une religion uniquement, donc ça ne définit rien de la personne. Enfin,
oui, c'est vrai que l'antisémitisme fait partie du terreau intellectuel européen. C'est pas un hasard si la Shoah a eu lieu en Europe. Il y a en Europe un antisémitisme qui a commencé comme un anti-judaïsme et qui a évolué entre le 18e et le 19e siècle en antisémitisme. Antisémitisme, d'ailleurs, c'est un mot qui a été inventé par un antisémite qui voulait créer un parti anti-juif et il l'a appelé antisémite. Et l'antisémitisme, c'est un peu un millefeuille, c'est-à-dire que on attribue aux juifs des défauts. Au début, c'était les juifs qui avaient tué le Christ, donc il y avait une essence religieuse, la religion chrétienne qui essayait de s'imposer, qui était née du judaïsme, s'imposer au début en excluant et puis après en massacrant. Et puis après, au XVIIIe siècle, on a laissé les juifs se donner l'identité qu'ils voulaient. Et pour les antisémites, c'était compliqué parce que tant que les juifs vivaient dans des ghettos, les ghettos du Moyen-Âge, c'était facile de les désigner, de les montrer du doigt, de les reconnaître. À partir du moment où ils ont pu vivre là où ils voulaient et finalement se donner l'identité qu'ils voulaient, il y a eu cette angoisse pour les antisémites de ne plus pouvoir désigner les juifs. Alors, comme on ne sait pas où sont les juifs à partir du moment où ils peuvent vivre où ils veulent et vivre comme ils veulent, il y a eu cette idée que les juifs, on ne sait pas où ils sont, ils complotent, voilà. Ils complotent ils s'attribuent le pouvoir, ils complotent contre contre la vraie humanité, etc. Et donc, ce sont à la fois des choses tellement ridicules, c'est-à-dire que dans l'antisémitisme, vous avez des idées totalement contradictoires, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont considérer, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, que, en effet, tous les juifs sont des révolutionnaires, des communistes. Et puis, il y a une autre partie de la population qui va considérer que tous les juifs sont des banquiers très riches. Alors, faut savoir, est-ce que les juifs sont riches ou est-ce qu'ils sont révolutionnaires et ouvriers? Vous voyez, il y a cette contradiction permanente et cette absence de cohérence et en fait qui va être basée sur l'ignorance. On n'aime pas ce qu'on ne connaît pas. Mmh. Et comme on vit dans des sociétés finalement très clivées, où les juifs sont minoritaires, les juifs n'existent pas dans le paysage, ils sont moins de 1% de la population en France. Ils n'existent pas, ou alors ils existent quand on va parler de la persécution. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas d'histoire des juifs en France, il y a l'histoire des juifs à travers la persécution, et finalement, c'est l'un qui nourrit l'autre. Ben donc, vous avez des gens qui vous disent, de toute façon, si les juifs ont toujours été persécutés, c'est qu'il y a forcément une raison. On ne va pas sortir de cette image victimaire. Vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu.
Oui, je vois très bien.
Et puis, ce qui est vrai, c'est qu'on vit dans une société où on a tendance à généraliser, à globaliser. Tous les juifs sont riches parce qu'on a parlé d'un juif riche à la télé. Donc, de quelqu'un, on estime qu'il est juif et on en a parlé à la télé. Mais c'est comme les jeunes qui pensent que tous les footballeurs sont riches. Mmh. Voilà, alors que ça représente quelques pourcents des joueurs de football en France qui sont riches. La majorité sont ou bénévoles ou pauvres parce que et donc si vous voulez, on a dans notre tête un cheminement de la pensée qui, si on n'y fait pas attention, nous amène à prendre des routes qui sont peu recommandables et c'est ça la nature humaine et je crois que il faut se le dire, c'est-à-dire qu'il faut se dire qu'on a tous en nous, quel qu'on soit en fait, une tendance à globaliser, à généraliser. Et c'est ça le début du racisme, c'est quand on impose une identité à quelqu'un, on impose une image à quelqu'un, on voit quelqu'un comme ça et on le voit pas autrement. Si vous voulez, vous parliez des juifs, les juifs, vous avez dit c'est une religion, mais c'est bien plus compliqué que ça en fait. Hein. Être juif, c'est pas forcément une religion. Hein. On a entendu lors de la panthéonisation de Simone Veil, on l'a entendu puisque ça a été retransmis durant la cérémonie officielle de panthéonisation. Cette Simone Veil qui disait, moi, je ne connais rien du judaïsme. Pour moi, c'est le judaïsme, ce sont les valeurs humaines et humanistes que mes parents m'ont transmis. C'est ça qu'elle disait Simone Veil de son judaïsme. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, il y a autant de façons d'être juif qu'il y a de juifs. Mais ça déstabilise les antisémites quand on dit des choses pareilles, vous voyez, parce que c'est beaucoup plus simple pour eux d'avoir un modèle. Mais il n'y en a pas. Mais de la même manière que, comme je vous le disais, globaliser, généraliser, de toute façon, ça nous mène intellectuellement à l'erreur. On est dans l'erreur quand on globalise. Donc, l'antisémitisme, c'est un racisme spécifique. Et tous les racismes se nourrissent de la même manière. On n'aime pas celui qu'on ne connaît pas. En plus, si vous voulez, on a un vocabulaire qui est nourri de stéréotypes qu'on répète de génération en génération. Et à un moment, si vous voulez, justement, notre intelligence, elle doit être là de dire « Non, moi, je vais pas répéter ça. Hein, voleur comme un arabe, radin comme un juif, etc. » Il y a un moment, il faut casser cette chaîne. Parce que ça passe aussi par des mots. Tant qu'on n'aura pas stoppé ces mots-là, parce que ces mots préparent malgré tout nos esprits, ils calibrent, ils paramètrent nos esprits. Qu'on se le dise ou qu'on ne veuille pas se le dire, c'est comme ça. Voilà.
Donc, c'est important de le dire en plus parce qu'on voit, pardon je vous coupe, mais on voit la montée du racisme et de l'antisémitisme. Enfin je sais pas, j'ai l'association, peut-être que je me trompe, mais en tout cas En tout cas, on voit une montée de l'extrême droite en France, d'un vote qui est devenu plus facile, on va dire. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il y a une montée du racisme et de l'antisémitisme, mais en tout cas, il y a une montée de l'extrême droite, ça c'est une certitude.
Je pense qu'on peut dire malheureusement qu'il y a une montée de l'antisémitisme et du racisme dans notre société, mais en même temps, si vous voulez, nous, dans le travail qu'on fait au Mémorial, je peux vous dire que c'est pas un racisme, en tous les cas, chez les jeunes, c'est un racisme qui n'est pas idéologique. C'est le racisme du stéréotype. Mmh. C'est le racisme de l'ignorance, du préjugé, du « mais tout le monde dit ça, alors je le répète ». Vous voyez, c'est le racisme du café du commerce. Mais pour moi, il est très grave parce que finalement, ça nous donne bonne conscience. On se dit… Enfin, nous, on rencontre des jeunes qui nous disent « non, mais c'est pas du racisme, tout le monde le dit ». Vous voyez, c'est pire parce que ça veut dire que c'est tellement enraciné dans notre vocabulaire, dans notre façon de parler, dans nos visions, dans nos pensées, qu'on se préoccupe même pas de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, on le répète. Et c'est là, si vous voulez, que je pense véritablement que les mots ont un sens et qu'il faut arrêter de jouer avec les mots. Voilà. Il faut arrêter de jouer avec les mots. Et tous les mots, c'est-à-dire que tout n'est pas génocide, tout n'est pas racisme, tout n'est pas antisémitisme, etc. Mais il faut bien nommer les choses. Sinon, à mal nommer les choses, tout sera dans tout, on va tout minimiser, relativiser et tout déformer.
Et justement, on voit de plus en plus des gens qui utilisent le terme génocide, typiquement pour parler de l'extinction des animaux, qui sont des êtres vivants également, mais qui ne sont pas de la race humaine. Est-ce que ça, c'est un génocide ou est-ce que c'est une extermination de masse ?
Non, mais vous savez, la notion de génocide, elle a été créée de manière très simple et en même temps pour qualifier des crimes menés par des êtres humains contre d'autres êtres humains. Mmh. Je pense qu'il faut... vous savez, moi, je dis toujours que, d'un côté, il faut comprendre les leçons de l'histoire, mais pas en étant tourné vers le passé, en pleurnichant et en étant passéiste, mais en essayant de comprendre comment l'histoire peut au contraire nous amener à poser des questions sur notre présent et à construire notre avenir. Voilà, ça c'est une chose. Et en même temps, si vous voulez, une fois que j'ai dit ça, le problème c'est que il vaut mieux moins parler de l'histoire des génocides, moins parler de la Shoah, mais mieux en parler. Et donc, moi, je ne suis pas du tout de ceux qui utilisent le mot génocide à tort et à travers. Il y a peut-être des situations contemporaines, avec des sujets plus contemporains, où il faut créer des mots. Mais ça ne sert à rien de détourner. C'est du marketing, en fait, pour moi. C'est du détournement de mots. C'est-à-dire
que...
C'est de la com, exactement. On va rattacher un terme générique qui signifie quelque chose dans, on va dire, le monde intellectuel. On va rattacher... Alors, c'est bien d'un certain côté, on peut dire, après tout, s'il y a tellement de gens qui veulent s'emparer du mot génocide, ça veut dire qu'enfin, on comprend ce que c'est un génocide. Oui, mais à peine on comprend, on le détourne déjà. Donc, je pense qu'il y a une certaine paresse intellectuelle dont il faut se méfier, parce que tout n'est pas génocide. Non, non, non. Il faut créer des mots nouveaux. Vous savez, quand Lemkin, en 1943, a défendu ce concept de créer des mots nouveaux, vous savez le nombre de gens qui se sont moqués de lui en lui disant mais pour qui tu te prends et finalement, il a eu raison. La langue est très riche et puis on a une capacité à enrichir notre langue, notre langage en permanence. On le voit bien tous les jours avec des expressions qui sortent de partout, nouvelles. J'invite celles et ceux qui ont le droit de se passionner pour des causes nobles, simplement à pas faire preuve de paresse intellectuelle et à utiliser les mots qu'il faut pour en parler.
Parfait. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte.
Moi, je veux claquer la porte à l'intolérance.
Forcément. Forcément. Non, mais c'est indispensable. En fait, le truc, c'est que vraiment, dans cette société où cette intolérance monte, Ça me semble important de le dire, en fait. Ça peut sembler simple, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça.
Alors, c'est un mot qui fait peur quand on parle d'intolérance, parce que c'est un mot tellement galvaudé aussi, tellement plan-plan, etc. Mais je crois que aujourd'hui, c'est ça qui est en jeu dans tout, sur cette haine permanente qui est déversée sur les réseaux sociaux, dans le débat politique, entre des groupes, entre des bandes, c'est quand même dans tout ça, il y a cette intolérance et cette intolérance, elle peut mener à des crimes graves, comme ceux des génocides dont on vient de parler, et qui sont pas si vieux que ça, et qui sont malheureusement peut-être l'avenir qu'on se réserve si on fait pas attention. Et donc c'est vrai, hein, on le voit, la montée de la radicalisation, il y a de l'intolérance d'abord.
Merci beaucoup, Jacques.
Merci à vous, merci de m'avoir donné la parole.
Avec plaisir.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !